Radio Prague, les informations.
Les Tchèques est en passe d'être acheminés aux Pakistanais touchés par le tremblement de terre. Prague livre des armes à l'Irak pour la protection du patrimoine culturel. Et le Sparta Prague a un nouvel entraîneur. Le Pakistan a donc accepté l'aide de la République tchèque après le tremblement de terre qui a dévasté une partie de son territoire. Un avion spécial, avec une équipe médicale à son bord et chargé de nourriture et d'équipements d'urgence, s'envolera donc de Prague ce mercredi. Le ministre tchèque de la Défense, Karel Kühnel, et l'ambassadeur d'Irak à Prague ont signé lundi un accord stipulant la livraison par la République tchèque de 1500 mitraillettes, 50 mitrailleuses et 1500 uniformes militaires à l'Irak. Destinés à protéger le patrimoine culturel en Irak, les armes et uniformes sont estimés à plus de 40 000 dollars et devraient arriver à Bagdad dans plusieurs semaines. Le gouvernement tchèque a assigné 78 millions de dollars à la reconstruction de l'Irak. L'argent a été utilisé pour financer des aides humanitaires, la mise en place d'un hôpital de campagne tchèque à Bassora et l'entraînement de la police irakienne ainsi que la protection du patrimoine culturel. La Cour européenne des droits de l'homme a débouté mardi la société américaine Anheuser-Busch qui se plaignait de ne pas pouvoir enregistrer sa marque phare de bière Budweiser au Portugal. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que la société Anheuser-Busch ne pouvait se prévaloir de la possession d'un bien dont la marque n'a pu être enregistrée définitivement en raison de la contestation d'un tiers dans le délai légal. L'affaire oppose depuis 1981 la marque américaine Budweiser à l'appellation d'origine Budweiser Beer, enregistrée au nom de la société tchèque Budějovický Budvar à l'Institut national portugais de la propriété industrielle. L'arrêt est susceptible d'appel devant la grande chambre de la juridiction des droits de l'homme. L'inflation en République tchèque s'est accélérée en septembre, dopée par la hausse des produits pétroliers, les prix à la consommation augmentant de 2,2% sur un an, contre une hausse de 1,7% sur un an en août, selon les chiffres officiels publiés lundi. Les prix de l'essence ont bondi de 21,6% en septembre, ce qui est la plus forte progression annuelle depuis ces cinq dernières années. En sport, le Slovaque Stanislav Griga sera le nouvel entraîneur du Sparta Prague. C'est ce qu'a annoncé le club de l'élite tchèque de football lundi sur son site internet. L'ancien joueur du Sparta Prague et de l'équipe nationale de Tchécoslovaquie va signer un contrat l'engageant jusqu'à juin 2007 avec 2 ans supplémentaires en option dès qu'il arrivera à Prague. Griga n'a plus entraîné de club depuis son limogeage du Slovan Liberec à la fin de la saison dernière. Il remplace Jaroslav Hřebík, démissionnaire après une longue crise traversée par le Sparta qui affronte Arsenal mardi prochain en Ligue des Champions. Et on termine ce bulletin avec la météo et du soleil, mais des températures qui se rafraîchissent entre 14 et 18 degrés dans la journée. Ce sont les prévisions pour ce mercredi, jour de fête des Marcel en République tchèque. Merci à toutes et à tous de votre attention. Dans un instant, la suite de notre programme en français.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
Merci d'être avec nous. Nous vous proposerons un entretien avec Henri Glucksmann, l'un des participants au Forum 2000 à Prague. Le président de la Chambre des députés, Lubomír Zaorálek, nous dira ce qui était au menu de sa visite à Paris. Vous entendrez la suite du témoignage d'une femme prisonnière condamnée dans les années 50. Nous nous intéresserons au rapport annuel sur l'état de l'environnement en Tchéquie et nous reviendrons sur la grande course hippique de Pardubice disputée dimanche dernier. Bonne écoute à toutes et à tous. La coexistence des cultures dans le monde globalisé, le rapport entre la démocratie et le fanatisme religieux, était au cœur des débats de la conférence internationale Forum 2000, qui a pris fin lundi à Prague et dont la première édition eut lieu il y a 9 ans sous l'impulsion de Václav Havel. La conclusion sur laquelle ses participants se sont mis d'accord est la suivante. L'approfondissement de la démocratie ne représente pas une garantie suffisante pour réprimer le terrorisme. La nécessité de penser sérieusement le terme « terrorisme » que l'ONU n'arrive pas à définir a été soulignée par le philosophe français Henri Glucksmann.
Disons sérieusement que le terrorisme, c'est l'action, l'agression délibérée par des gens armés de populations désarmées. La guerre, maintenant, atteint tout le monde. Il n'y a pas l'arrière et l'avant. C'est universel. Alors, nous sommes passés le 11 septembre de l'ère de la bombe à hydrogène, la bombe H, à l'ère de la bombe humaine. Pour le 21e siècle, il y a tout à coup, entre quasiment toutes les mains, la réunion du pouvoir stateur de Hiroshima et du pouvoir annihilateur, du fanatisme annihilateur de Auschwitz.
Dans son intervention, M. Glucksmann a rendu hommage aux dissidents tchèques et s'est référé au cofondateur de la Charte 77, le philosophe Jan Patočka. Je l'ai invité au micro pour lui demander pourquoi.
Les dissidents tchèques étaient exemplaires parce qu'ils arrivaient à s'entendre avec leurs différences. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique parce que c'est la seule forme de coexistence possible pour l'humanité au deuxième millénaire. Et pourquoi ils ont réussi cela? Parce qu'ils se sont regroupés contre. Ils ne se sont pas regroupés en faveur d'un idéal, mais ils étaient d'accord contre les périls. Ils étaient d'accord contre la dictature. Et c'est Patočka qui a expliqué que l'homme du XXe siècle et du XXIe donc se définit face au péril dans ce qu'il a appelé l'expérience du front. La guerre de 14 a appris aux nations européennes qu'elles étaient mortelles. La guerre de 40 et la bombe atomique et les camps de concentration ont appris à l'humanité qu'elle était mortelle. Et le 11 septembre apprend que cette capacité de mettre fin à l'humanité, cette capacité de produire la fin du monde, n'appartient plus aux États. Elle appartient à tous les terroristes. Il y a une vraie nouvelle expérience du front qui prolonge les précédentes et qui est en gros le passage de l'ère de la bombe H, où la fin de l'humanité était entre les mains de 9 nations, en gros, 2 grandes puissances et 9 nations nucléaires, à l'ère de la bombe humaine, où la capacité de mettre fin, évidemment pas d'un seul coup, mais par tranche, à l'humanité, était entre quasiment toutes les mains, car ceux qui font sauter des tours à New York ou le Pentagone sont évidemment capables de faire sauter un centre pétrolier ou un centre nucléaire.
Que faire face à ces risques? Vous parlez du droit d'ingérence.
Entre autres, il faut être capable de réduire à la fois les groupes terroristes, mais aussi les sanctuaires du terrorisme et les terrains favorables du terrorisme. Alors, je prends l'exemple de la Tchétchénie. C'est le même scénario que l'Afghanistan. L'armée russe, qui était à l'époque l'armée rouge, dévaste le pays. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Les plus fanatiques, dans ce désert moral, risquent de prendre le pouvoir. Et par conséquent, ils font Manhattan. Heureusement, les actes terroristes épouvantables, parce que Beslan, c'est un crime contre l'humanité, ces actes terroristes épouvantables sont pour l'instant très rares. Celui qui prend des enfants en otage est capable de prendre une centrale nucléaire en otage.
La libre circulation de la main-d'œuvre, mais aussi l'avenir de l'Union européenne, tels ont été les sujets abordés ce lundi lors de sa visite en France par le président de la Chambre des députés tchèques, Lubomír Zaorálek. Il y a rencontré notamment le président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debray, et le président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée, Édouard Balladur. Václav Richter.
La circulation de la main-d'œuvre entre la France et la République tchèque est un problème délicat. Les anciens membres de l'Union européenne, dont la France, disposent, comme on le sait, d'une période de transition pouvant aller jusqu'à 7 ans avant d'être obligés de s'ouvrir aux travailleurs venant de République tchèque. Ce délai semble évidemment trop long aux Tchèques et on cherche maintenant les possibilités de le raccourcir. Cet effort a marqué aussi la visite de Lubomír Zaorálek en France.
J'ai attiré l'attention sur les données concrètes qui démontrent que la République tchèque ne représente absolument pas un danger pour le marché du travail en France. J'ai dit aussi que je pense que cela concerne les nouveaux pays membres de l'Union de manière générale, qui ne sont pas du tout dangereux dans ce domaine pour la France. J'ai donc surtout demandé qu'on respecte les faits.
V té debatě jsem hlavně chtěl, abychom respektovali fakta v téhle oblasti.
Quelles sont donc les possibilités de parvenir à un compromis dans ce domaine, Lubomír Zaorálek?
Bien que nous soyons obligés d'œuvrer dans ce sens, il sera extrêmement difficile de parvenir à une situation où, 2 ans après notre adhésion à l'Union, la France s'ouvrirait sans réserve à notre main-d'œuvre. Cela provoquerait sans doute aussi un tournant dans les attitudes d'autres États. Bien sûr, c'est ce que nous désirons, mais ce sera, je le répète, extrêmement difficile. Nous pouvons donc parvenir au moins à un compromis, c'est-à-dire à la libéralisation dans certains secteurs. Les détails de ce compromis font l'objet de négociations qui sont déjà en cours. 2 ans se sont écoulés depuis notre adhésion, et maintenant nous entrons dans une période où nous devrons demander les chiffres, les données, les faits, les arguments qui justifieraient le prolongement du moratoire sur la libre circulation de la main-d'œuvre. Nous devons présenter aussi nos données et nos arguments pour la levée de ce moratoire, et seulement dans le cas où cela ne serait pas suffisant, chercher au moins un compromis.
Suite aujourd'hui du témoignage de Julie Hrušková, condamnée pour espionnage à 15 ans de prison par le régime communiste dans les années 50. Le 29 septembre, Anna Kubišta l'a rencontrée à l'occasion d'une rencontre du souvenir organisée par la Confédération des anciens prisonniers politiques consacrée exclusivement aux femmes. Retrouvons Julie Hrušková qui nous raconte comment, dans l'atmosphère d'un des 15 camps différents où elle a été enfermée, les prisonnières trouvaient des moyens d'échapper à leurs conditions. Comment les femmes parvenaient à être solidaires aussi.
J'ai appris l'anglais auprès de l'écrivaine Nina Svobodova, j'ai appris des poèmes. Nous faisions aussi du théâtre, mais tout cela était bien entendu fait en secret. Grâce à Yeshina Stepnichkova, j'ai lu des pièces de théâtre, car c'était une comédienne. Elle possédait des livres qu'elle avait été autorisée à garder, mais bien entendu, elle n'avait pas le droit de les prêter. Nous étions jeunes, moi j'avais 21 ans. J'ai essayé de me cultiver parce que je n'étais qu'une simple jeune fille.
Cette rencontre, organisée par la très active Confédération des anciens prisonniers politiques, était d'autant plus importante qu'elle était dédiée aux femmes. Peu à peu, alors qu'une bonne partie des atrocités du régime communiste sont mises à jour, étudiées, discutées, d'autres pans de l'histoire, d'autres points de vue, laissés jusqu'alors de côté, comme le cas des femmes dans les camps communistes, commencent à être évoqués. En 2003, un témoignage capital, celui de Dagmar Šimková, a été réédité en République tchèque. Son titre, « Nous aussi, nous y étions », rappelle bien l'impasse faite sur ces femmes enfermées parce qu'elles menaient des actions anticommunistes, parce qu'elles étaient liées à un ennemi du peuple, parce qu'elles étaient d'origine sociale suspecte, pour toute raison absurde que le régime totalitaire, machine à broyer les destins, voulait bien trouver.
Justement, Dagmar Šimková parle de moi dans son livre avec le surnom qu'on me donnait « moustique » à cause de tout ce que je disais contre notre commandement. Je voulais toujours rendre joyeuses les autres femmes. Quand elles étaient tristes, donc quand un ordre était émis par exemple, je disais « encore un coup porté à l'impérialisme américain ». Alors elles riaient et la vie continuait.
Julie Hrušková réconfortait les femmes qui avaient été emprisonnées et dont les enfants avaient été placés en orphelinat. Elle explique qu'elle-même était jeune et sans attache et pouvait donc se consacrer à ses mères déchirées. Sans attache, Julie Hrušková l'était, car lors d'un interrogatoire musclé mené par la STB, la police politique communiste, elle perd l'enfant qu'elle attendait. Preuve s'il en fallait encore que les femmes n'ont pas été épargnées. Et le retour à la vie civile, après ces années de jeunesse perdue, n'était pas pour autant synonyme de paix retrouvée. Ni de soumission non plus pour Julie Hrušková.
Quand je suis rentrée à la maison, ils ont continué à me surveiller jusqu'à l'élection de Havel, parce que bien sûr, mes opinions, j'ai continué à les exprimer, même quand je suis rentrée.
Le ministère de l'Environnement a publié le rapport sur l'état de l'environnement en Tchéquie en 2004. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Des progrès ont été réalisés, mais il reste beaucoup à faire pour satisfaire la législation européenne en matière de protection de l'environnement. Le plus grand progrès a été atteint dans le recyclage des déchets. La République tchèque est le seul des nouveaux pays de l'Union européenne à avoir accompli les exigences imposées par le recyclage des bouteilles et emballages. Quant aux autres indicateurs, le bilan est plutôt négatif. La production de l'énergie à partir des sources renouvelables ne couvre que 4% de la consommation nationale, alors que l'exigence énergétique est l'une des plus élevées à l'échelle européenne. Les forêts tchèques sont les plus frappées par la pollution en Europe. En dépit d'une amélioration de la qualité des eaux dans les grandes rivières, il existe toujours de nombreux cours d'eau à haut degré de pollution. La situation est la plus grave en ce qui concerne la pollution de l'air par le trafic automobile. En 2004, il a rejeté dans l'atmosphère 5 760 tonnes de particules de poussière. Le rapport avertit que la concentration de fines particules de poussière a dépassé les limites autorisées sur 3,5% du territoire du pays, habité par 34% de la population. Quant aux émissions de CO2, elles dépassent sensiblement la moyenne des anciens pays européens de 60% sur un kilomètre carré. Le problème de la Tchéquie est que plus de la moitié des voitures qui roulent sur les routes sont âgées de plus de 10 ans. Elles déversent donc plus de déchets et sont plus bruyantes, sans parler du fait que leur nombre a augmenté de 50% par rapport à l'an 1990. Comme il est constaté encore dans le rapport en question, cette année, la première, une norme européenne plus sévère sur la protection de l'environnement est appliquée dans l'ensemble des villes européennes. Quant à notre pays, à 3 mois de la fin de l'année, il est clair que cette norme ne sera pas respectée dans la plupart des grandes villes, dont Prague. La norme autorisée des particules de poussière invisible a été dépassée dans plus de la moitié des 85 stations de mesurage automatique. Les sanctions pour la violation de la législation européenne en matière de protection de l'environnement ne sont pas à exclure de la part de la Commission européenne. Dimanche s'est disputée la 115e édition de Velká Pardubická, le grand steeplechase de Pardubice en Bohême de l'Est. Cette légendaire course hippique d'obstacles, considérée comme l'une des plus exigeantes en Europe et longtemps décriée par les associations de protection des animaux, a été remportée par Maskul, un cheval marron de 11 ans monté par le jockey allemand Dick Fuhrmann à l'issue d'un superbe final. Guillaume Narquet.
En 9 minutes et 11 secondes, nouveau record d'un parcours long de 6900 mètres, dire que Fuhrmann, qui s'alignait à Pardubice pour la première fois de sa carrière, a mené Maskul à sa deuxième victoire 3 ans après son premier succès. Même si le beau temps était au rendez-vous cette année et le terrain par conséquent moins lourd que d'habitude, seuls 7 des 16 chevaux à avoir pris le départ ont terminé une course souvent comparée au Grand National de Liverpool en Angleterre. Registana, grande favorite et vainqueur des 2 dernières éditions, est tombée dès le 2e des 31 obstacles que comporte le tracé. Pour la jument, sans doute la plus connue de République tchèque, ce sont donc désormais les haras et la reproduction qui l'attendent pour une retraite bien méritée. Suite à cette chute, une bataille féroce s'est donc engagée pour la victoire et c'est finalement Maskul qui l'a emporté d'une courte tête au grand plaisir de son joker Dirk Fuhrmann. Il y a 3 semaines de cela, j'ai monté Maskul pour la première fois et j'ai tout de suite senti que c'était un cheval intelligent et qu'il passait très bien les obstacles. Le moment le plus délicat de la course est apparu dès le 2e obstacle, lorsque la tenante du titre, Registana, est tombée juste devant moi. Lorsque je l'ai vue à terre, j'ai pensé que la chute était inévitable pour nous aussi et que c'en était donc fini. Mais nous avons réussi à poursuivre et ensuite ce fut une course magnifique, même si l'arrivée fut la plus dure de ma vie.
Was the hardest finish in my life.
C'est la fin de ces faits et événements. Merci de les avoir suivis et bon écoute de la suite de l'émission sur Radio Prague.
73 de Radio Prague. Alain Slivinski.
Alain Slivinski est heureux de vous accueillir à l'écoute de l'émission destinée aux radio-écouteurs, à tous les amateurs des ondes courtes et de l'écoute des émissions internationales. Le micro est aujourd'hui à Roland Paget du Club Amitié Radio de Créteil.
Chers amis de Radio. Radio Prague, bonjour. Une nouvelle fois, quelques minutes ensemble pour ce rendez-vous mensuel sur un point de l'actualité de la radiodiffusion internationale. En ce qui concerne surtout cette fois-ci un petit peu les émetteurs, à l'approche du changement d'horaire à la fin du mois d'octobre et donc du passage à l'horaire d'hiver pour un grand nombre de radiodiffuseurs internationaux. Tout d'abord, il y aura effectivement les changements de fréquence pour pouvoir s'adapter tout d'abord à la période de propagation en hiver et également à la variation de l'activité solaire, puisque en effet nous sommes toujours dans la période décroissante d'activité solaire. Et à partir de ce moment-là, effectivement, les stations revoient leurs fréquences, mais également aussi toute leur planification en fonction de la diffusion directe depuis leurs émetteurs dans leur pays, mais également les diffusions par relais. Sachant que, par exemple, pour le Canada, Radio Suède, qui d'ailleurs à cette occasion va réorganiser sa grille, puisque plusieurs langues comme l'estonien et le lituanien vont disparaître, car ces deux pays étant maintenant dans l'Union européenne, la Suède considère qu'il n'y a plus lieu de diffuser dans ces langues vers ces pays. Donc Radio Suède, qui diffuse également toujours en anglais, en allemand, en suédois, entre autres, devait utiliser l'émetteur de Sackville au Canada pour relayer en DRM, en numérique, son émission vers l'Amérique du Nord. Or, suite à des problèmes techniques sur certains émetteurs, Radio Suède ne peut utiliser donc le relais dans l'attente de la remise en service de cet émetteur. Quant à la Hongrie, elle va encore utiliser les émetteurs slovaques, car en effet, après le déménagement d'un centre d'émission à un autre centre d'émission en Hongrie de deux émetteurs de 100 kW, leur installation et surtout adaptation avec les antennes de ce centre n'étant pas encore terminée pour le moment, la Hongrie donc doit toujours faire appel à ses voisins slovaques afin de pouvoir diffuser sa grille complète de programmation. Parmi les autres stations qui ont en ce moment quelques soucis, et c'est surtout pour certains l'adaptation au numérique qui prend un peu de temps. En effet, Radio New Zealand, dans son installation de nouvel émetteur qui est équipé du DRM, a donc encore quelques adaptations à faire également et de mise, je dirais, un peu en conformité et d'adaptation avec les antennes. Donc Radio Nouvelle-Zélande peut également effectuer des coupures entre 0h30 et 4h en temps universel de ses émissions, notamment dirigé essentiellement vers le Pacifique, mais que l'on peut tout de même entendre dans d'autres régions du monde quand les conditions de propagation sont favorables et satisfaisantes. Donc voilà un petit peu pour ce petit tour d'horizon. Je dirais encore que la BBC lance des tests via la Norvège. Ce centre sera réactivé, effectivement, parce que le centre émetteur norvégien avait été fermé à la suite de la fin des émissions en ondes courtes de Radio Norvège et également de Radio Danemark qui était relayé via la Norvège après avoir lui-même fermé son centre d'émission. Une radio en langue anglaise, Paris Live Radio, devrait donc diffuser prochainement en ondes moyennes sur la région parisienne sur la fréquence de 963 kHz. Pour le moment, nous n'avons pas la date exacte précise du lancement. Toutefois, vous pouvez surveiller, si vous habitez la région parisienne, cette fréquence ou éventuellement aller sur le site de la station www.parisliveradio.com. Enfin, pour rester encore dans le numérique, puisque c'est l'événement de cette fin d'année, le numérique en modulation d'amplitude, Radio London, une radio privée, en 2006 devrait effectuer des tests en DRM, et ceci dans la bande des 26 MHz, donc à suivre, peut-être que des conditions de propagation, suivant comment se situe l'émetteur et l'installation, pourraient bien être utiles. Enfin, Radio Chine Internationale diffuse en FM et également sur un émetteur ondes de moyenne une sélection de ses émissions en langue étrangère, et ceci pour notamment la région de Pékin, mais également dans d'autres régions de la Chine. Avant de nous quitter, je serai très heureux de rencontrer les auditeurs de Radio Prague, si vous êtes dans la région, vous pouvez venir, donc à l'occasion du 27e Salon International Radio Amateur, AM Expo, qui se tiendra samedi 22 et dimanche 23 octobre à Auxerre, dans le département de Lyon. C'est à environ 150-200 km au sud-est de Paris. Donc le 27e Salon International Radio Amateur au Palais des Expositions, Auxerre Expo, au sud de la ville d'Auxerre. Donc notez ces dates et je serai bien très heureux de vous y rencontrer pour parler, bien entendu, de radio. Il est temps de repasser le micro à nos amis de Prague. Mes meilleures salutations radiophoniques. Bonne écoute, profitez encore des conditions de réception qui restent tout de même favorables. Et rendez-vous à très bientôt.
Le 73 de Radio Prague, c'est maintenant terminé. C'est la fin aussi des émissions en langue française de Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 20